France Musique. Musicopolis. Entre 1740 et 1773, Berlin. Je vous donne aujourd'hui une fourchette de dates vraiment importante. C'est plutôt même une fourche. Et encore, je me suis restreinte. Au lieu de 1740, j'aurais pu remonter jusqu'à 1718. C'est qu'en effet, on n'a pas la moindre idée de l'année où Johann Joachim Quantz a composé son concerto pour flûte en sol mineur. Enfin, quand je dis son concerto, je veux dire celui que nous allons écouter tout de suite, qui est l'un des 16 qu'il a composé dans cette tonalité. Concertos dans la même tonalité, c'est beaucoup, pensez-vous? Pourtant, ça n'est pas grand-chose comparé aux quelques 300 concertos que Quantz a consacrés à son instrument. Pourquoi donc cette volonté de Johann Joachim Quantz de composer un si grand nombre de concertos? Il y a deux réponses à cette question. Premièrement, c'est son instrument de prédilection, celui dans lequel il a acquis une maîtrise qui est reconnue partout en Europe. Et deuxièmement, c'est l'instrument de son patron, qui est aussi son roi, Frédéric II de Prusse. La flûte traversière est donc l'instrument de Johann Joachim Quantz. Ce n'est pas celui qu'il a appris lorsqu'il était petit, mais c'est celui qu'il a véritablement choisi à l'âge adulte. Petit, il a joué surtout du violon, mais aussi du hautbois, de la trompette, du cornet, du trombone, du cor, de la flûte à bec, du basson, du violoncelle, de la flûte de gamme, du clavecin et de la contrebasse. Examinons donc un peu la formation de Johann Joachim Quantz et comment il en est venu à jouer de tous ses instruments. D'abord, nous remarquons qu'il n'est pas un enfant du sérail. Son père n'est pas musicien, mais forgeron. Et même si le petit Joachim aime beaucoup la musique et profite de toutes les occasions pour aller avec son grand frère écouter la musique des fêtes et des bals, son père le prend comme apprenti à la forge. Cependant, il perd son père à 10 ans. Il est recueilli par son oncle, musicien de ville à Merseburg, petite ville non loin de Leipzig. Dans le nouveau métier qu'il apprend, il faut surtout savoir se débrouiller rapidement, jouer à la première lecture, changer de tonalité si besoin et, encore plus important, pouvoir remplacer n'importe quel collègue. D'où l'intérêt de jouer des bois, des cuivres et des cordes. Dans son autobiographie, Quantz donne une idée de ce qu'il jouait au violon. Des sonates d'Albicastro, de Corelli, de Telemann, de Bieber. Il devait avoir une bonne technique. Thank you. 16 ans, Quantz est un bon instrumentiste. Il cherche à se placer ailleurs qu'à Merseburg. Il fait quelques voyages dans les grandes villes de Saxe, Pirna, Dresde. Rien de concluant ne se décide, mais il découvre les concertos de Vivaldi. « Je ne manquais pas, écrit-il, d'en collectionner un choix considérable. » En 1716, à 19 ans, enfin, Johann Joachim Quantz est engagé comme oboïste dans l'orchestre de Dresde. C'est alors l'un des meilleurs d'Europe, par la volonté de l'électeur de Saxe Auguste le Fort, qui, à l'instar de son collègue Louis XIV, a compris que l'investissement dans la culture est un investissement qui rapporte. Les musiciens qui sont engagés là sont parmi les meilleurs d'Europe, et ils donnent à l'orchestre royal, et par conséquent à la ville de Dresde et à l'État de Saxe, un rayonnement tout à fait remarquable. C'est un orchestre multinationalité, avec des instrumentistes qui sont aussi compositeurs. On y trouve des Français, le chef Jean-Baptiste Volumier, le flûtiste Gabriel Buffardin, des Italiens, comme le violoniste Francesco Maria Veracini, des Bohémiens, dont le contrebassiste Jan Dismas Zelenka, des Allemands aussi, bien sûr, comme le violoniste Johann Georg Pisendel, qui sera bientôt chef d'orchestre. Deux ans plus tard, le jeune oboïste passe du grand orchestre à la petite musique de chambre. Et c'est là qu'il se rend compte qu'il y a déjà deux oboïstes de talent alors qu'il n'y a qu'un seul flûtiste. Qu'à cela ne tienne, il va devenir flûtiste. Gabriel Buffardin va l'aider et en quelques mois, après moult gammes et arpèges, voici notre Quantz virtuose de la flûte. Je ne vais pas vous détailler comme ça, pas à pas, toute la vie de Quantz, mais juste vous dire qu'après être devenu flûtiste, grâce à son talent et son labeur, notre musicien va aussi avoir beaucoup de chance. D'abord, il obtient de partir en voyage en Italie dans la suite de l'ambassadeur de Pologne. Il va visiter la péninsule de Venise à Naples et de Naples à Turin, rencontrer les plus grands musiciens italiens du temps. Ensuite, il se rend à Paris, puis en Angleterre, et il revient par les Pays-Bas, Hanovre et Brunswick. Et il se retrouve, au bout de 3 ans, à nouveau à Dresde, considérablement enrichi sur le plan musical. Il a rencontré tous les compositeurs de son époque et il s'est acquis une réputation, celle de meilleur flûtiste d'Europe. Première grande chance. Et deuxième chance, quelque temps après son retour de voyage, le roi de Prusse, Frédéric Guillaume Ier, dit le roi Sergent, vient en visite à Dresde, accompagné de son fils, l'héritier, le prince Frédéric. En retour, le roi de Saxe rend sa visite à Frédéric Guillaume Ier, accompagné de ses meilleurs musiciens. Tout ce qu'il fallait pour que Quantz soit remarqué par le jeune Frédéric. Le jeune prince Frédéric, héritier du trône de Prusse, tient absolument à ce que Johann Joachim Quantz lui donne des leçons de flûte. Mais l'électeur de Saxe ne veut pas le lâcher, bien sûr. Donc, pour le moment, un arrangement est trouvé. Quantz se rendra 2 fois par an à Berlin, puis dans les diverses villes où résidera Frédéric pour lui donner des leçons. Un arrangement qui va durer pendant 13 ans, jusqu'à ce que la roue tourne, que les rois soient remplacés à Saxe et à Dresde. En 1740, lorsque le prince Frédéric devient Frédéric II de Prusse, il peut faire venir Quantz. Ces 13 années d'attente n'ont pas émoussé le désir du monarque d'avoir Quantz à son service, bien au contraire. Et pour cette raison, le statut du musicien à Berlin va être tout à fait exceptionnel. Quelle chance, encore! À partir de 1740, le destin de Johann Joachim Quantz va être indissociablement lié à celui du roi Frédéric II de Prusse. Si le monarque est un vrai roi, dans le sens de despote, même éclairé, et qu'il se comporte comme tel avec ses sujets en général, avec Quantz, il est dans un rapport d'élève à maître. Quantz est d'ailleurs le seul à avoir l'autorisation d'évoquer le jeu royal et de faire un compliment ou éventuellement une critique. Mais en contrepartie, il doit l'exclusivité à Frédéric. Il ne peut pas faire publier ses œuvres, ni même en faire des copies. Les seules copies autorisées sont destinées aux 3 châteaux du roi, sans souci, le Nouveau Palais, Charlottenburg. Thank you. partir du moment où Quantz appartient corps et âme à Frédéric II de Prusse, il va pratiquement se consacrer à la flûte. Il compose plus de 300 concertos pour une ou deux flûtes, plus de 235 sonates pour une flûte, une cinquantaine de sonates en trio pour deux flûtes et quelques autres pièces, la plupart avec au moins une flûte. L'élève royal travaille sous la férule de son maître Quantz, qui parfois joue avec lui. Le roi se produit tous les soirs en concert, mais sans public, en présence des seuls musiciens, les frères Benda, les frères Graun, Emmanuel Bach et les autres. Les concerts durent de 7h à 9h du soir. Dans sa jeunesse, le roi joue 6 concertos et une sonate. Il diminuera progressivement le nombre de concertos, mais on comprend tout de même pourquoi il avait besoin d'en avoir sans cesse de nouveaux. Raison pour laquelle Quantz en a autant composé. Et d'autant plus qu'il recevait une petite gratification supplémentaire pour chacun. Pendant les concerts du roi, à moins que Quantz ne joue en duo avec son élève, son rôle se borne à donner la mesure au début de chaque mouvement et parfois à crier un « bravo » à la fin des solos. C'est du moins ce que raconte l'historien anglais Charles Burney qui a pu assister à une soirée. Enfin, assister, c'est un bien grand mot puisqu'il entendait la musique de derrière une porte fermée. Parmi les devoirs qui lui incombent, outre d'être présent au concert du roi, Quantz doit bien sûr composer pour lui. Et dernière tâche, il lui construit des flûtes. Notre musicien s'est mis à la confection des instruments déjà avant de s'installer à Berlin, dans le but d'en améliorer la justesse et le son. Nous avons beaucoup de renseignements sur Quantz grâce à ses écrits. D'une part une autobiographie et d'autre part un essai d'une méthode pour apprendre à jouer de la flûte traversière. Ce dernier ouvrage est d'autant plus précieux pour nous que Quantz, dans le but d'être compris par les musiciens de toute l'Europe, l'a fait paraître en même temps en allemand et en français. C'est non seulement un manuel pratique, mais aussi un recueil de conseils pour qui veut se lancer dans la profession. « Celui qui veut être compositeur, écrit-il, doit avoir un génie vif et plein de feu, une âme susceptible de tendres sentiments, un heureux mélange de ce que les savants appellent tempérament, dans lequel il ne se trouve pas trop de mélancolie, beaucoup d'imagination, d'invention, de jugement et de discernement, une bonne mémoire, une oreille délicate et fine, une vue bonne et pénétrante et beaucoup de docilité. » Pour exceller dans la musique, poursuit-il, il faut avoir une envie, un amour et un désir infatigable. N'épargner aucune peine et aucun travail. Et avoir assez de courage pour supporter toutes les incommodités qui se rencontrent dans ce genre de vie. On raconte que Quantz, qui était par ailleurs très grand, large d'épaules et corpulent, se comportait en véritable tyran avec son élève Frédéric II. Mais à son tour, il était tyrannisé par son épouse. Ce qui amène Carl-Philippe Emmanuel Bach à proposer une devinette à ses amis. Quel est l'animal le plus puissant de Prusse ? Personne ne répond. Bach reprend. C'est le caniche de Madame Quantz, parce que Madame Quantz elle-même en a peur. Quantz, lui, a peur de Madame Quantz, et Frédéric, le plus grand monarque du monde, a peur de Quantz. Il paraît que le roi a ri de bon cœur lorsqu'on lui a rapporté la blague. Le troisième mouvement du concerto pour flûte en sol mineur QV5-196 de Johann Joachim Quantz, Frank Tönnes à la flûte traversière avec l'ensemble Les Buffardins. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Françoise Monteil pour les recherches et le site, Jean-Michel Bernot pour le mixage et Claire Lagarde pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.